La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans la troisième mi-temps Sud Radio, le podcast pour revenir sur votre week-end rugby que vous avez vécu évidemment sur Sud Radio. Marius Lufrançois, Quentin Cabanis, bonjour messieurs.
Bonjour Cyprien, bonjour à tous.
Bonjour. Salut également Maxime Senna qui n'a rien à faire le lundi, donc il se permet de réaliser cette émission.
Mais c'est de loin le meilleur réalisateur de Sud Radio.
Oui, après Quentin Cabanis, évidemment que vous retrouvez tous les week-ends. Messieurs, c'était un week-end de Champions Cup, pas de top 14 ce week-end. Par contre, il y avait trois clubs français qui ont joué. Ça a commencé samedi à 16h avec les Toulonnais qui se sont déplacés en terre irlandaise du côté du Leinster. Ils se sont inclinés de peu, 29-25, après une folle remontada qui les a vus échouer de 4 petits points. Le dimanche 16h, vous l'avez vécu avec François Trio, Daniel Herrero et Nicolas Delage. C'était Bordeaux-Bègles basse et ce sont les Bordelais qui ont pris le meilleur sur les Anglais, 38-26. Ce sera donc une finale à Bilbao. Leinster, Bordeaux, les Bordelais qui vont tenter de conserver leur titre. Avant de revenir sur ces rencontres rapidement, messieurs, cette affiche, Leinster-Bordeaux, elle est alléchante le 23 mai prochain pour une finale de Champions Cup, Marius.
Elle est alléchante, elle est extrêmement alléchante même, bien que le Leinster ne soit quand même plus le grand Leinster qu'on ait pu connaître et on avait encore pu le voir ce week-end. Mais effectivement, ça reste voilà deux monstres européens, notamment dont un au niveau du palmarès, puis les Bordelais qui sont très en forme depuis maintenant quelques saisons et qui sont en route pour un doublé.
Doublé historique, ouais.
Et qui ont de grandes chances de le réaliser, je pense.
Exactement. Le dernier club français qui l'a réalisé, c'était La Rochelle, qui avait réalisé le doublé déjà contre le Leinster.
Exactement.
Quentin, hypé un peu déjà par cette affiche.
On est toujours forcément hypé de voir une finale avec un club français représenté. Alors bon, depuis 5 ans, on commence à être habitué puisque cette Champions Cup, elle nous appartient depuis quasiment une demi-décennie. Donc on est forcément content de voir l'UBB en finale. Le Leinster, on a l'impression que tout était fait de toute façon pour que cette équipe aille en finale. Ils avaient un tableau plus favorable, on va dire, que par exemple l'UBB ou le Stade de Toulousain, parce que bon, c'était écrit que les deux clubs français allaient se retrouver en demi-finale. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est le seul petit regret que j'ai, moi, c'est que j'aurais espéré que le Stade Toulousain soit dans l'autre tableau pour retrouver une finale UBB Toulouse, qui aurait peut-être été un des matchs les plus intéressants, même si ce match entre l'UBB et Basse a été aussi très sympa à suivre. Mais voilà, on est quand même content de voir deux ogres européens s'affronter dans la finale de cette Champions Cup. On va avoir pas mal d'Irlandais qu'on connaît bien, pas mal d'internationaux français de l'autre côté, donc ça va être quand même un petit match sympathique et on a déjà hâte d'être le 23 mai.
Le 23 mai prochain en direct de Bilbao, évidemment.
En plus, la localisation est sympa.
Ah oui, le Pays Basque, c'est toujours cool.
On avait perdu sur la dernière finale à Bilbao, du moins. Le club français avait perdu en finale, je crois que c'était déjà contre le Leinster.
Exactement, c'est exactement ça. Messieurs, on va se diriger vers un podcast particulièrement sur Bordeaux. Du coup, on parlera de Toulon un peu plus tard et également de Montpellier en challenge. Mais Bordeaux nous intéresse parce que Bordeaux finalise. Bordeaux pas loin de faire le doublé, deux titres d'affilée en Champions Cup. Mais est-ce qu'ils peuvent réaliser le doublé cette saison Champions Cup top 14? Est-ce qu'ils sont armés, les Bordelais, pour ça? On rappelle, ils sont actuellement 6e du top 14 et ils ont encore 4 matchs à jouer. Déplacement à Bayonne, réception de Perpignan, déplacement à Toulon et réception de Clermont. Leur place dans le top 6 n'est pas assurée. Est-ce que, malgré tout, Marius Lufrançois, ces Bordelais sont armés pour réaliser le fameux doublé que seul le Stade Toulousain a réalisé, champion de France et champion d'Europe?
Oui, le son. Toulon l'avait pas fait aussi?
Toulon l'a fait une saison en 2014.
Ouais, mais non, alors armés, ils le sont, je pense. C'est certain, c'est indéniable. Ils ont un groupe costaud. Ils ont, on connaît les qualités de cette équipe de l'UBB. Après, effectivement, ça me paraît quand même compliqué. En fait, ils ont laissé trop de munitions, cette saison, notamment la défaite à la maison face à Montpellier. Le déplacement à La Rochelle aussi, bon, ils avaient effectivement pas envoyé leur équipe type, mais voilà, c'était ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, ils sont sixième, mais ils sont quand même en ballotage. Sachant que tu vas aller jouer tu peux plus balancer un seul match, en fait, moi, selon moi.
Sachant que là, ils ont joué dimanche et ils jouent samedi prochain dans le multiplex.
Il y a un monde où le match. Tu peux pas. Il y a un monde où à Bayonne, ils y vont pas avec l'équipe type. Si j'étais le staff de l'UBB, c'est même ce que je ferais parce que tu risques de tout perdre sur cette rencontre.
Il faut régénérer.
Parce que si tu pètes un mec, voilà, tu peux rater la. Ouais, non, mais si tu pètes un Jalibert ou un Lucu, ça peut changer beaucoup de choses pour une potentielle finale de Champions Cup.
Et oui, oui.
Mais tu peux tout perdre.
Tu peux autant les péter sur des gros matchs. C'est surtout que là, si tu perds, tu perds ta place dans ta place dans le top 6. T'as quasiment pas le droit à l'erreur, sachant que tu vas jouer donc Toulon et Clermont deux concurrents directs. Alors Clermont à la maison, mais on avait Clermont.
Sachant que
est allé gagner à Toulouse.
Toulon, ce sera la semaine suivante la finale de Champions Cup. C'est-à-dire que en cas de titre. Est-ce qu'il y aura une semaine de fête comme ils l'ont fait la saison dernière?
Il fallait chercher, non.
Mais oui, mais l'année dernière, ils avaient assuré leur place dans le top 2. Donc ils avaient pu se permettre d'avoir une semaine de fête.
Bah
là,
oui, mais
qu'est-ce qu'on fait?
Là, moi, je pense qu'en fonction du classement, tu fais pas la fête. Hein, et je pense que galvanisé par un titre, tu fais une soirée.
Oui, voilà mais tu fais pas la semaine de brin comme ils ont fait l'année dernière.
Tu te retournes pas le crâne pendant 5 jours de suite à plus savoir comment tu t'appelles, quoi. Mais là, tu te dis que ça peut être un match extrêmement important et quasiment déjà un premier match de phase finale.
Quand tu cibles, là déjà, je pense que tu cibles les deux matchs, les deux réceptions, Perpignan-Clermont pour être dans le top 6. Mmh. Et derrière, t'en cibles quoi? Tu cibles un des deux déplacements, Bayonne?
Pour moi, tu dois tout cibler. Hein.
Moi, je pense que tu ne prends pas de risque à Bayonne parce que, mine de rien, si t'es l'UBB, que tu gagnes une deuxième Champions Cup, même si t'es pas dans le top 6, je pense que la saison, elle est réussie.
Parce que, elle est réussie, malgré tout.
Bah, en début de saison, t'as que deux titres à aller chercher. Quand t'es une équipe de rugby professionnelle, t'as deux titres à aller chercher, le top 14 ou la Champions Cup. Je veux dire, quand t'es l'UBB, t'as dans ton histoire, sous le nom UBB, un seul titre, c'est la Champions Cup d'année dernière. Donc quoi qu'il arrive, si tu vas aller chercher un deuxième titre, ce sera une saison réussie pour moi, pour l'UBB.
Mais
moi, il devrait se focaliser sur cette finale du 23 mai, tout en évidemment respectant les deux réceptions.
Quelle est l'importance d'une Champions Cup par rapport à un top 14? On a l'impression que le top 14 reste quand même le Saint Graal, la Champions Cup reste un très beau titre, très prestigieux, mais... Sur une échelle, on le met un peu en dessous.
Mais aujourd'hui, t'es sixième en top 14, donc quoi qu'il arrive, tu vas devoir passer par un barrage, une demi,
quasiment, oui.
une finale, donc il te reste trois gros matchs pour aller gagner ce titre en top 14, alors que t'as plus qu'à une petite marche d'aller gagner une deuxième Champions Cup. Aujourd'hui, je pense que l'UBB doit se focaliser sur la Champions Cup et aller chercher ce deuxième titre dans son histoire. Et essayer la saison prochaine de ne pas reproduire les erreurs de cette saison pour être dans le top 6 limite, tu vois. Parce que je pense que si l'UBB avait fait moins de petites erreurs sur cette saison, il serait pas à la sixième place aujourd'hui et il pourrait se concentrer sereinement sur les deux compétitions aujourd'hui. J'ai le sentiment que l'effectif est un petit peu trop réduit pour pouvoir espérer jouer les deux tableaux comme un Stade Toulousain aurait pu le faire.
Les erreurs, notamment Marius, ce sont sûrement les trois défaites à domicile rares pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais. Donc c'est Pau, le Stade Français et Montpellier qui sont venus s'imposer à Chaban. Et en plus, c'est malheureusement, ça tombe cette année où ce sont des concurrents directs.
C'est ça.
On n'attendait pas les Pauillois, les Parisiens ni les Montpelliérains dans le top 6, ni ce n'est top 2. Et donc du coup, des concurrents directs qui viennent gagner à domicile, ça complique un peu la tâche pour aller accrocher une belle place.
Bah complètement. Et puis ça montre aussi que sur un match de barrage ou une demi-finale, t'es pas à l'abri en fait contre un des concurrents directs de perdre ton match. Alors moi je trouve que la saison serait réussie en cas de victoire en Champions Cup, c'est certain. En revanche, il y aura quand même un énorme sentiment d'inachevé, un goût d'inachevé s'ils sont pas dans le top 6. Et moi, pour moi, effectivement, ça va peut-être être un petit peu court au niveau de l'effectif, mais bon, ça c'est Yannick Bruet et son staff qui vont gérer ça. Il y aura peut-être des enseignements à prendre.
Ça peut être une équipe hybride.
Non, mais aucun match là.
Non, mais d'accord, mais là par exemple, est-ce que tu réalignes la même charnière sur Bayonne ou est-ce que tu fais une charnière hybride? Par exemple, tu mets un Jalibert, tu fais souffler Lucu.
Non, t'es obligé.
Est-ce que tu fais peut-être souffler en deuxième ligne un Coleman? Est-ce que tu fais peut-être souffler en troisième ligne un Beauchaton ou un Wookie derrière? Est-ce que tu
c'est dur parce
est-ce que derrière par exemple tu fais souffler Rayassi pour relancer Buros?
Alors ça, tu peux faire souffler Rayassi et mettre Buros, c'est pas non plus je veux dire, tu peux repas en talent,
c'est ça que je veux te dire.
Buros, ça devait être le titulaire.
Le poste le plus problématique, c'est la paire de centre. T'as perdu deux porteurs, t'as perdu le sud-africain
pas des super remplaçants.
Et donc du coup, derrière, t'as Komo et Fana Penon.
T'as des pétés aussi.
C'est ça.
Là, tu vas récupérer Poirot, déjà, qui a soufflé pendant une semaine parce qu'il était suspendu sur ce match de Champions Cup. Donc à la rigueur, t'as un leader qui revient, qui peut jouer contre Bayonne parce que là, il était frais. Mais je veux dire, je pense que tu dois pas prendre de risques avec Lucu Jalibert. Même si je suis pas très inquiet sur un Lucu, je pense qu'il peut enchaîner les cinq derniers matchs. Mais Lucu, par exemple, plus que n'importe qui d'autre, il a la tête à Bilbao.
Si tu vises la finale en top 14, là, tu n'as plus une semaine de trêve. Une semaine de trêve.
Bah, c'est comme ça.
Alors que tes concurrents n'ont pas joué ce week-end, tes concurrents ne joueront pas le week-end du 23 mai.
C'est pour ça que moi, je ferai l'impasse sur ce match à Bayonne. Alors, quand je dis impasse,
si tu perds,
tu pars avec hybride.
T'envoies une équipe hybride. Je me comprends, t'envoies pas les U18, quoi. Tu vois,
Bayonne n'a plus grand chose à jouer, donc du coup, tu peux aller.
Bayonne a déjà perdu 4 fois à domicile.
C'est le match piège par excellence.
Bayonne, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont
maintenus. Mais ils n'ont plus rien à jouer, sauf.
C'est le match piège par excellence.
Garder un petit honneur auprès de ses supporters.
Non, non, t'envoies une énorme équipe. T'essayes même d'aller faire comme ce qu'a fait Pau à Bayonne, d'aller accrocher un bonus. Et là, tu te donnes de l'air. Non, parce que moi, le problème de balancer ce match-là, non, c'est qu'après, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, comme l'a dit Cyprien, ils se sont plantés 3 fois contre des concurrents directs. Et là, t'en rejoues encore 2 des concurrents directs. Mais, et tu vas à Toulon.
Mais
donc le déplacement
à
Mayol.
T'as une autre équipe qui a quand même une fin de saison très compliquée sur laquelle tu peux essayer de compter. C'est Clermont. Parce que bon, Clermont va gagner le week-end prochain contre Perpignan. Ça, il n'y a pas trop d'autres. Mais Clermont, après, ils vont à Pau. Il y a quand même de grandes chances qu'à Pau, ça perde. Ah, ou quoi qu'il arrive, c'est un concurrent qui perd.
Comment on peut dire ça? Ils ont battu Toulouse.
Exactement.
Mais attends, mais. On peut plus dire ça de Clermont.
Non,
on peut plus dire ça de Clermont. On peut plus dire ça de Clermont.
Oui, mais c'est Pau.
Mais alors, tu peux plus. Et c'était
Toulouse.
Oui, mais c'était la grosse équipe de Toulouse.
Au stadium contre Toulouse.
Ouais, c'était la grosse équipe de Toulouse.
Qui te dit qu'ils vont pas aller gagner à Bordeaux?
Toulouse savait qu'ils allaient finir premier quand il arrive.
Ils avaient quand même envoyé la grosse équipe.
Jamais perdre un match au stade.
Bien sûr. Clermont a quand même un déplacement à Pau, ce qui est pas facile. Une réception du Racing qui jouera aussi sa qualif, ce qui est pas facile.
Tout dépend s'il gagne ou pas ce week-end le Racing.
Et un déplacement à Clermont.
À
Bordeaux justement. Ouais, donc Bordeaux peut s'offrir aussi une deuxième
finale. Mais il était déjà tombé 3 fois à domicile contre des concurrents directs. T'es pas à l'abri. Clermont vient de te gagner. Donc
là, Clermont aussi a perdu
là,
à domicile.
Là, c'est comme ça. Il n'y a pas de stratégie. Tu ne balances pas un match à la rigueur. Tu fais souffler 2-4 grand maximum par match où tu peux un peu. Effectivement, tu peux prendre un Retière dans la charnière. Tu peux te prendre
un Hugo Reus qui vient.
Mais tu changes pas du tout au tout. Tu te gardes une grosse équipe à chaque fois. De toute façon, t'as besoin de ça pour resserrer les mecs.
Tu fais pas la même composition qu'ils ont envoyé à La Rochelle.
Non, certainement pas. Tu fais plus une seule fois ça.
Après, tu peux faire hybride contre Bayonne.
Top 6 qui se joue.
Et tu peux faire hybride contre Bayonne. Et hybride contre Perpignan, ou normalement avec une équipe hybride contre Perpignan à domicile, ça doit passer.
Non, mais la question qu'on se pose aussi là, c'est intéressant sur le choix que doivent faire les Bordelais, mais si jamais ils arrivent à se qualifier dans le top 6, à passer potentiellement les barrages, les demi-finales, ils vont arriver en finale contre un adversaire, ils seront rincés les mecs potentiellement.
S'ils arrivent contre.
Et la dernière fois qu'ils sont arrivés rincés, rappelez-vous, c'était contre Toulouse deux saisons.
Il y a quand même de grandes chances que ce soit le même scénario.
Hein. Ils ont pris un tir, mais un tir monstrueux. Est-ce que le staff va devoir gérer les organismes pour.
Et pourtant, ils n'étaient pas allés aussi loin en Coupe d'Europe.
Non, mais ils avaient galéré pour aller accrocher leur place de qualification et donc du coup, ils avaient bataillé sur plus de matchs, et puis Jalibert était un peu incertain.
Bah, il était sur une jambe.
Mais ce que je veux dire, ils avaient galéré un peu plus parce qu'ils étaient passés par le barrage. Ils avaient gagné le barrage et la demi-finale.
Il y a des équipes qui vont passer par le barrage. Je veux dire, il n'y a pas que Bordeaux qui va être rincé à la fin de la saison.
À préserver un peu les organismes pour essayer d'aller chercher.
Et tu les préserves pas. Tu vois, hein, tu bosses avec ton prépa physique à fond.
Tu vas arriver.
Les mecs, c'est bon, ils commencent à. Enfin, c'est leur job, quoi.
Ouais, mais t'auras 2 semaines de compétition de plus qu'un Stade Toulousain, par exemple.
Oui, deux semaines. Et l'année où Toulouse fait le doublé, ils avaient 2 semaines de plus que tout le monde et finalement ils le font. Et pareil pour Toulon.
C'est
comme ça. Si Bordeaux veut être parmi les plus grands et ce qu'ils aspirent à être, et ils ont l'effectif pour l'être, et ben si t'aspires à être un des plus grands et à tout gagner et à vouloir tout gagner, tu joues tous tes matchs à fond, tu les gagnes et c'est comme ça, point barre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette finale, donc il y a Bayonne, déplacement à Bayonne, réception à Perpignan, finale à Bilbao, donc pas très loin au niveau de distance de toute façon, déplacement à Toulon la semaine qui suit la finale et réception de Clermont. La finale, elle peut également jouer un aspect psychologique en fonction de s'il y a victoire ou défaite.
Oui.
Si tu perds la finale et que derrière tu dois te déplacer à Toulon pour aller continuer à batailler pour une place dans le top 6,
c'est pour ça qu'il faut assurer aussi, hein, sur les deux premiers matchs.
Malgré tout, les Bordelais semblent plutôt favoris sur la finale au vu des dynamiques et au vu de ce que proposent les Irlandais avec une absence de demi-ouverture.
Et puis a priori, ils auront un public quand même plutôt acquis à leur cause, je pense, les Bordelais.
Il y a plus d'accent, en effet, basque et Bordelais.
T'arrives avec un Lucu qui est le plus basque de tous, là, qui va arriver là-dedans, il sera chez lui, tu vois, Maxime Lucu, par exemple, et à mon avis, il va faire un match
monstrueux. Déjà qu'il a fait une énorme demi-finale.
Il a fait une demi-finale à... si énorme que en interview d'après match, les Anglais, les premières questions qu'ils ont posées à Yannick Bru, les journalistes anglais, c'est Maxime Lucu. Tu vois, c'est quel type de joueur c'est Maxime Lucu, c'est incroyable, etc. Ouais, comment est-ce qu'il n'est pas sous-évalué parce qu'il joue avec Antoine Dupont aussi? Parce que c'est les questions qui ont été posées à Yannick Bru par les journalistes anglais. Ils n'ont pas demandé une question sur le reste de l'effectif, sur Mathieu Jalibert, sur le jeu bordelais. C'est Maxime Lucu qui a été la première question des journalistes anglais à Yannick Bru. Qui a répondu avec un anglais parfait d'ailleurs.
Mais ouais.
C'est un petit pic.
Non, enfin, bah non, il parle bien en anglais.
Mais il y a un petit accent. Okay.
Il a l'accent de Yannick Bru. Mais en anglais.
Tu veux me faire une imitation de Yannick Bru qui parle anglais?
Non, moi je me moque pas des accents. Sinon j'ai des problèmes à la maison après.
Non, ce que je voulais dire, c'est simplement qu'effectivement, en plus comme tu l'as soulevé très justement, il y a cette finale qui arrive. Peu importe le scénario, effectivement, Bordeaux est favori, mais bon, ça reste quand même le Leinster en finale, tu peux pas savoir. Imagine, tu balances.
Le Leinster sans numéro 10. Hein.
Oui, bah oui, ça c'est certain. Mais
je sais pas quel est le pire des deux. Hein.
Tu balances. On sait très bien qui
non,
c'est.
Non, je te jure que.
Imagine, tu balances le match contre Bayonne, finalement tu gagnes pas à Bayonne. Tu batailles pour le top 6, à l'arrivée tu perds, ce qui est, possible.
Tu peux
tout
perdre.
Tu perds la finale, ça voudrait dire que tu perds la finale, tu galères pour le top 6, voire tu te qualifies pas. Là, la saison, elle est foirée.
Ouais, mais
donc
si tu
ne balances plus un match,
ouais,
là, c'est terminé.
Si tu balances pas de match, tu perds la finale et que
si t'es dans le top 6, ta saison elle sera quand même.
Non, t'es l'UBB, tu peux pas te satisfaire d'une saison où tu finis 6e, tu te fais exploser en demi.
Finaliste de Champions Cup. Et top 6, même si tu perds les deux tableaux.
Moi, je trouve que la saison est plutôt réussie.
Elle me semble un peu moins ratée quand même.
Non, mais en début de saison, je pense que l'objectif de l'UBB, c'est de faire le doublé.
Avec les joueurs qui composent cet effectif. Il y a un moment. C'est le top 14, l'objectif.
Oui, l'objectif top 14, tu vas quand même en Afrique du Sud avec ton équipe type.
Oui, mais ils sont.
Pour aller gagner avec le bonus là-bas.
Ils sont allés chercher deux fois une finale, deux fois perdu coup sur coup. Je pense que quand tu repars en saison, tu te dis.
Mais je pense qu'ils ont envie de faire le doublé. Parce que l'année dernière, ils sont à une prolongation de faire le doublé.
Exactement.
Donc, ils se disent qu'ils peuvent le faire. Et je pense que si tu sors avec zéro titre, ta saison, elle est cata.
Non, elle est pas, ça dépend de ton parcours en top 14, mais elle est pas cata, je pense.
Bah, tu finis 6e sans titre.
Si tu perds au final les deux.
Bah, dans ce cas-là, ce serait super présomptueux de leur part, parce que c'est une énorme équipe, d'accord, mais ça fait, trois ans, quatre ans qu'ils sont possiblement là.
Alors,
si en trois ans, t'es déjà là, si je fais pas le doublé, j'ai raté ma saison.
T'as peut-être deux des cinq meilleurs joueurs du monde dans ton équipe déjà.
Si tu perds les deux finales, c'est une saison ratée. Tu perds en finale de Champions Cup et en finale de top 14.
C'est une saison ratée ou c'est une saison décevante?
Bah, voilà, mais c'est pas pareil.
Marius, lui, mise pour que les Bordelais jouent leur va-tout et visent également le championnat et ne laissent pas de match. Et donc, tu les vois armés pour le doublé ou ça va être compliqué quoi
qu'il arrive ? Ça va être extrêmement compliqué, mais de toute façon, pour n'importe qui.
Il y a une équipe qui joue en rouge et noir qui va être compliqué à aller chercher en top 14.
Ça, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu joues au max, quoi. Tu joues tout ce que tu peux jouer et tu lâches rien, tu laisses rien.
Et toi, du coup, tu les vois armés pour le doublé, Quentin ?
Moi, je pense que le doublé, ça va être compliqué. Je pense que c'est.
Il vaut mieux se focaliser sur un objectif qui est la Champions Cup.
Moi, je ferai tout sur la Champions Cup pour l'UBB.
Et ensuite, le top 14, c'est du bonus.
Alors, s'il y a une qualification dans le top 6, c'est évidemment qu'ils vont jouer les phases finales à fond.
Bonus, quoi.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'aller chercher ce titre en Champions Cup. Quand t'es à un match d'un titre, il faut faire tout pour le gagner.
38-26, ils ont battu les Anglais. On a parlé évidemment de Lucu qui a fait un match stratosphérique. L'autre qui a fait un très gros match durant cette rencontre, c'est Marco Gazzotti, le numéro 8 bordelais, qui a fait également un très bon match.
Coleman 20 sur 20 au plaquage.
Ces Anglais-là, mine de rien, ils ont d'une impuissance folle. Ils ont pas mal de munitions, mais ils mettent un temps fou à marquer alors que les Bordelais, eux, c'est létal. On rentre dans les 22 et on
score. Ils ont pris une leçon de réalisme, les Anglais. Et bon, après, on le sait, hein, que cet UBB a des armes pour faire très très mal. Et dès que ça part un petit peu dans tous les sens, ils sont quasiment inarrêtables. Parce que là, tu vois qu'un Mathieu Jalibert a été un petit peu cerné par Russell sur certaines actions où les petits coups de pied par-dessus ont été couverts comme il faut, etc. Mais que, dès que ça commence à déployer du jeu, sur, par exemple, l'essai de Lucu derrière une mêlée, ils partent sur la droite. Oui. Jalibert, il met une passe un peu casquette à Lucu, mais le garçon arrive à jongler avec la balle pour aller récupérer ce ballon, elle a marqué un essai de temps de jeu plus tard. Et puis t'as des armes létales sur le banc. Désormais, aujourd'hui, Bentame Ifuna, quand il sort du banc en Champions Cup, c'est un essai garanti. Ouais. Je veux dire, sur les phases finales, il est rentré à chaque fois. Et à chaque match, il a marqué son essai. Et c'est quasiment toujours les mêmes. Hein. Donnez-moi la balle, j'enfonce la défense.
Tu veux dire qu'il a pas mis de 4 deb?
Et, oh, il pourrait. De toute façon, il sait tout faire, ce garçon. Mais il a peut-être un certain
c'est
problème
un
de
déblaiement. Faut que les genoux tiennent quand même. C'est un cas de déblaiement.
Ouais, bah disons que c'est un cas de débarquement. Vraiment, il a vu une plage et il s'est enfoncé comme un Américain en Normandie. En tout cas, ça a été terrifiant. Il a défoncé tout le monde encore une fois hier. Et quand il rentre, il marque un essai à chaque fois. Donc c'est quand même un super somme en plus. Et tu commences à avoir un banc sympa aussi à Bordeaux. Donc c'est intéressant.
C'est coquin, en effet. Du côté de Toulon, qui s'est déplacé en Irlande, Marius, 29-25, la marche était trop haute pour les Toulonnais, ils ont loupé le coche en début deuxième mi-temps, supériorité de 15 Toulonnais contre 13 Irlandais, et pour autant ce sont les Irlandais qui ont marqué, c'est à ce moment-là que le match se joue.
Je sais pas si c'est là que le match se joue, mais moi vraiment je suis encore hyper frustré de ça, parce que pour moi la marche était pas trop haute en fait, ils avaient le niveau, je sais pas ce qu'ils ont attendu, Il leur a manqué cette étincelle de se rebeller, d'avoir un peu le feu, la fougue, et ils l'ont eu à partir du moment où Serin met l'essai et puis finalement Drian met le deuxième, mais ils ont attendu les 10 dernières minutes les Toulonnais, et c'est extrêmement dommage parce que là c'était vraiment pas le Leinster qui était au-dessus. Toulon a été assez réaliste en plus en première période, puisqu'ils viennent une fois dans les 22, ils marquent. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est super frustrant. Effectivement, je pense qu'ils auraient dû aller marquer au moment où ils étaient à 13 contre 15, ça c'est indéniable. Mais ils auraient dû se réveiller plus tôt. Je sais pas ce qui leur a manqué, je sais pas pourquoi ils ont pas... Ouais, ils auraient dû se réveiller plus tôt, quoi. C'est extrêmement dommage parce qu'ils viennent échouer à très peu. C'est pareil, ça se joue finalement sur la passe de Drian, un peu en avant, puis Tukivu qui n'arrive pas à la récupérer. Si elle est bien faite celle-là, tu peux aller marquer, tu peux aller gagner, quoi.
Mais ça joue aussi au fait que sur plusieurs actions, ils ont voulu être un petit peu gourmands, les Toulonnais, à donner des ballons qu'ils auraient dû conserver, passer par le sol, marquer un temps de jeu. Bah, Drian, par exemple, aurait pu conserver plutôt qu'essayer de transmettre après contact, tu vois. Ça aurait permis la continuité du jeu. On peut penser à aussi où Esteban Abadi bouffe un peu la feuille parce qu'il a Serin à l'intérieur, il le voit pas et il se fait reprendre et en plus il se fait gratter. Il y a la transmission qui tape dans les genoux aussi d'un de ses coéquipiers et qui est signalé en avant par Luc Pierce, je crois, qui était aussi sifflé. Donc voilà, il y a plusieurs actions quand même dans ce match où il se le bouffe un peu tout seul, les Toulonnais. Et puis il y a cette gestion de la supériorité numérique où ils n'arrivent pas à scorer et ils prennent un essai et un carton jaune en plus alors qu'ils sont à 15 contre 13, parce qu'il y a le carton jaune de Bobigny qui fait mal aussi. Et après, bah, on peut forcément, après le match, refaire la composition, se dire que Baptiste Serin a apporté quand il est rentré, il aurait peut-être été mieux en tant que titulaire. Même si Ben White fait pas un mauvais match, faut le dire, que Al Bornoz est parfois peut-être un petit peu trop foufou et pas assez gestionnaire pour ce genre de rencontre. Il y a ce genre de choses qu'on peut se dire, tu vois, mais que Ferté aurait pu rentrer plus loin. C'est un match qui nous laisse des regrets. Quoi qu'il arrive, parce qu'on a l'impression qu'il était à la portée des Toulonnais.
Il est parfaitement représentatif de la saison toulonnaise, en fait. C'est-à-dire que.
Très proche et très loin.
Bah ouais, quand ils ont l'avantage, ils sont à 15 contre 13, avec leur grosse équipe.
Quand ils doivent tuer le match,
ils peuvent le tuer, ils ne tuent pas. Et quand on les attend plus en se disant, bah là, c'est fini, trop d'avance, là, ils deviennent foufou et ils refont quelque chose et profite ça se joue un peu
de Prendergast.
Alors là comment il faut en parler. Irlandais, comment se foirer la fin du match.
Je te laisse 30 secondes pour flinguer
mais on a le droit de défoncer Burn aussi ou pas.
Mais on défonce qui on veut.
Allez, parce que le 10 titulaire du Leinster,
c'est dramatique.
Ils ont eu Sexton,
j'ai eu O'Gara avant.
Oui.
Et là, tu joues avec deux énormes pompes à vélo, mais c'est pas possible. Il y en a
Leinster,
pas
Leinster,
un
Leinster,
pour attraper l'autre.
Non, mais les Irlandais.
J'étais en train de me dire, attends.
O'Gara était au Munster, mais c'est les Irlandais. Ouais. Les Irlandais avaient deux. On a eu deux grands demi d'ouverture.
Et comme par hasard. Ronan O'Gara est sur la ligne 2, là, il est déjà en train de t'insulter.
Oui, je sais.
C'est-à-dire, moi, Leinster.
Non, il était au Munster.
Fuck.
Il a gagné des titres avec Leinster. Des coupes d'Europe avec le Munster.
Comme par hasard, dans les 10 dernières minutes, Toulon revient et quasiment à hauteur et voire peut aller gagner le match. Prendergast rentre à 10 minutes de la fin.
Ouais, bah après.
Coïncidence.
Après, Burn a été catastrophique aussi.
Je ne sais pas, mais Burn dramatique, c'est horrible.
Moi, et puis face au PSG, il n'est pas bon non plus.
Horrible.
On peut aussi regretter les points laissés au pied par Jaminet, ça n'arrive pas souvent. Et là, bon, après, ce n'était pas non plus des pénalités hyper faciles. Mais il en rate une face au PSG, bon, à 52 mètres. Mais c'est largement dans les cordes d'un buteur de ce niveau-là. Si on prend Melvin Jaminet, une pénalité de 50 mètres, normalement, ça rentre avec lui. Et bah là, il s'est trouvé qu'elle est passée à 3 cm des poteaux à droite, tu vois. Donc, c'est pas un coup de pied honteux. Mais avec Jaminet au top de sa forme, ça rentre et ça change aussi.
Et vous referez la défense de Prenergast sur l'essai de Dréan. C'est...
Non, oui.
Non, mais
oui,
on n'a pas
possible. Si, par contre, c'est là où Dréan n'est pas cool, parce qu'honnêtement, il n'a pas respecté les règles. Il s'était touché deux mains, il ne s'est pas arrêté. Et en fait, il a continué l'action, il a même aplati l'essai. Ouais. Et non, d'ailleurs, tu le vois, il lève la main à Prenergast au moment où il le touche deux mains, il dit bah, touché.
Et touché.
Et après, on est d'accord aussi que les Toulonnais prennent deux essais, je crois, sur des pénalités jouées à la main.
Oui, des combinaisons qui sont plutôt
la première est quand même assez simple, elle
est plutôt jolie.
Bah attends, il y a
un passage
à vide énorme.
T'es censé descendre là-dessus.
Les physiques d'avant, vous n'aimez pas le jeu des avant, c'est terrible quand même.
J'ai rien contre le jeu d'avant, mais quand ça consiste à faire une passe et à feinter toute la défense, c'est quand même...
C'est pas compliqué, c'est chacun le sien.
Les combinaisons à 5 mètres de Big Ben là.
Oui.
Où il tape le ballon, où il la joue lui-même et il va tout droit.
Mais Big Ben, t'as pas le sentiment, au moins tu peux dire j'y pouvais rien. Le mec est trop costaud. Là, c'est chacun le sien, en face, et tu sais qui tu prends. Et ils peuvent faire des chichis et des feintes à droite à gauche, chacun le prend.
Tu le bouffes. Là, Bentamé Founa, tu dis bon, bah, je le prends un contre un, courageux ou pas. Et puis bon, bah, moi, pas courageux, mais bon.
Messieurs, avant de se séparer, un petit mot derrière sur Montpellier, évidemment, qui en Challenge Cup a réussi à se défaire difficilement des Gallois de Newport. On aurait pensé que c'était plus simple.
Montpellier-Romagné.
Évidemment, Montpellier remanié, mais néanmoins 18-12 à domicile. Ils iront également à Bilbao, ils iront défier les Irlandais de l'Ulster. Les Irlandais qui sont en finale en challenge et en grande coupe d'Europe.
On peut dire la même chose des Français, finalement.
Donc, en fait, les deux meilleures nations d'Europe, c'est évidemment l'Irlande et la France.
Quelle surprise!
Montpellier, donc, est-ce que Montpellier, ça peut être la grande saison pour Montpellier rapidement, messieurs? Victoire en challenge et potentiellement des demi-finales et même plus en championnat top 14.
Ce serait pas choquant que ce soit plus qu'une demi-finale pour Montpellier en top 14. Hein. La victoire en challenge, je pense que c'est largement à leur portée.
Ça dépend de l'équipe qu'ils vont envoyer, parce qu'elle n'est pas actée. L'Ulster, c'est costaud.
C'est une belle équipe, hein, l'Ulster. Oui, mais il y a du McCloskey.
Werner Koch.
Ouais, il y a Augustus, le numéro 8, qui est surpuissant, qui était à Northampton. Mais
Montpellier, cette année, c'est quand même une sacrée équipe.
Oui, mais
c'est une équipe qui a été battre le finaliste de la Champions
League. Oui, mais comme dit Marius, ça dépend qui tu mets. Ça dépend qui tu joues le vendredi 22, donc tu as un peu plus de repos que.
Et puis Montpellier, t'es assuré d'être dans le top 6. Tu joues moins ta vie que le bébé.
Tu joues moins ta vie.
Tu peux te permettre de.
Qu'est-ce que tu fais? Les mecs qui sont battus pour avoir leur place en finale, tu les sucres au moment de la finale ou est-ce que tu les fais croquer jusqu'au bout?
Quoi qu'il arrive, ils auront un titre, hein, ils seront contents.
Ah bah non, c'est pas la même chose. Non, je suis désolé. Tu joues tous les matchs pour aller jouer la finale et on te dit merci, au revoir, t'es hors groupe pour la finale.
Non, mais ils ont pas joué tous les matchs. Par exemple, le demi-mêlée là qui était là d'habitude, il mettait. Ouais.
Il a joué qu'il y a pas mal de matchs. Hein.
C'était pas.
Mais non, c'est pas Colly ni Price.
Colly?
Non, c'est pas Price et c'est pas Price.
Pour moi, Colly avait joué.
Bernardet a pas mal joué, mais je pense à.
Contre le Connard, c'était qui? C'était Price, le titulaire, et Miotti, la charnière.
En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Ça a été très mal.
Ils sont adaptés à l'adversaire.
Moi, je trouve que ça a été très mal de la part de Joël Colullo et son staff. Ils ont adapté à chaque fois en fonction. Là, je pense que même si l'adversaire était supérieur, parce que bon, les Dragons, c'était pas les plus gros sur la feuille, mais effectivement, ils font quand même un super parcours.
Ils ont quand même battu l'ogre du Stade français.
Ouais, complètement. Et
j'ai envoyé leur équipe C.
Et donc, je trouve que ça a été plutôt bien amené. Là, de toute façon, il n'y avait pas le choix. S'ils veulent continuer en top 14 et essayer d'aller plus loin, c'est parfait. Mais encore une fois, eux peuvent se le permettre parce qu'ils ne sont pas sixième.
Ils ont reposé les cadres à challenge pour aller jouer en top 14.
Après, reposer les cadres, t'as quand même des joueurs importants qui étaient là aussi. C'était un petit peu hybride. On va dire que t'as les Ninouchi qui étaient là, quand même. Tom Bongs qui était là. Kadou, ça reste un joueur intéressant. Voilà. Erdosio, il joue beaucoup.
Non, c'est pas lui le numéro 1.
Bécogni joue, Duguid joue.
Oui, ça c'est oui.
Voilà, donc t'avais quand même
t'as 5 mecs. Ouais, 5 mecs de titulaires habituels, on va dire.
Parce que, Tao Fifenois, ça joue pas beaucoup.
T'as Banks, alors lui
oui, Banks, il y était.
Tu sais ce qu'il devrait faire, les Bordelais? Yannick Bru, il devrait passer un coup de fil à Tom Banks pour savoir comment il fait pour enchaîner autant sans avoir de soucis.
Il a tourné un peu sur les dernières saisons.
Mais c'est hallucinant.
Et c'est surtout, il a vécu, il a joué pas mal ces dernières saisons au Japon où il a dû faire la moitié des matchs.
Tu crois qu'il a fait du frais sur la saison d'avant? Je pense que justement.
Il fait pas du frais sur les trois saisons précédentes, le mec. C'est une machine.
C'est une machine, mais au-delà de ça, il n'avait pas le même rythme sur les dernières saisons.
Oui, oui.
Bah donc Montpellier qui sera en finale contre l'Ulster le vendredi 22 mai à Bilbao, Montpellier-Ulster en challenge et Leinster-Bordeaux-Bègles. Les deux finales sont très alléchantes. Le 23 mai à 16h il me semble à Bilbao. Mais si
ils
on se retrouve
qui avant Montpellier en championnat, parce que bon là il y a la réception de Montauban, donc ils peuvent tourner et après ils vont à Castres.
Ouais, méfie-toi,
ils peuvent faire tourner aussi à Castres.
Méfie-toi.
Ils peuvent faire tourner à Castres, mais ils peuvent aussi avoir envie d'aller gagner à Castres. Hein. Ils peuvent le faire.
Non, mais je veux dire, ils peuvent faire tourner et aller gagner à Castres. Hein.
C'est pas faux. C'est, ouais. Ouais.
Hein, voilà, on va terminer
par
là-dessus.
Par contre, après la finale, il y a la réception de Pau.
Et ça va être un gros match.
Qui peut être une finale pour la deuxième place.
Exactement, une finale pour la deuxième place. Et là, ça va être très intéressant.
Mais bon, la réception de Montauban, a priori, là, la semaine prochaine, ils peuvent y aller avec une équipe hybride à domicile. Ça devrait aller.
Ça devrait jamais, passer. On pourrait être surpris.
Merci Marius, suis François, merci Quentin Cavadis. On se retrouve vendredi pour la causerie pour parler top 14 et cette course effrénée au top 6. Est-ce que Bordeaux y arrivera? Est-ce qu'on va vivre un Racing 92 La Rochelle dimanche soir qui sera palpitant? Bref, on en parle vendredi dans la causerie. D'ici là, passez une très bonne semaine. Évidemment, les réseaux sociaux sur sudradio.fr, l'application Sud Radio, également Sud Radio Rugby sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. Très bonne semaine à toutes et tous.